Antoine Febvre, est-ce que je me trompe en pensant qu'il y a comme un retour de l'ésotérisme sous une double forme, une forme populaire, de plus en plus justement parmi les gens, on parle d'astrologie par exemple, etc. Et puis sous une forme plus scientifique, on a par exemple parlé d'une gnose de Princeton. Est-ce que cette vision est exacte ou si...
Retour de l'ésotérisme sous une forme populaire et retour de l'ésotérisme ou émergence de l'ésotérisme sous une forme scientifique, oui, certainement. Encore que ici, plusieurs facteurs doivent être pris en considération, je crois. Sous une forme populaire, d'abord. Je crois que actuellement, nous assistons à un retour en force de l'imaginaire. Tout au moins de l'imagination, disons. Les gens ont de plus en plus le besoin d'exercer leur imagination. C'est vrai d'ailleurs aussi dans le domaine scientifique. Nous pourrons dire un mot tout à l'heure. Il est certain que un des chapitres très intéressants de l'histoire de la pensée occidentale, qui serait à écrire, ce chapitre, je ne crois pas que ça ait été fait, c'est l'histoire de l'imagination, l'histoire de son statut. L'imagination a été considérée comme maîtresse d'erreur et de fausseté. Elle a été coincée dans la philosophie, par exemple chez Kant, entre la perception et le concept. Il y a eu très peu de place, même dans les théologies officielles, pour l'imagination au sens ésotérique, théosophique du terme, qui est tout de même une dimension anthropologique fondamentale. Si Dieu a été créé l'homme à son image et à sa ressemblance, l'homme a quelque chose, nécessairement, c'est un point de vue ésotérique que je partage, et ce n'est pas du tout en contradiction avec ma position de catholique pratiquant, l'homme a nécessairement quelque chose de l'imagination divine. Dieu crée l'univers par son imagination divine. L'homme a quelque chose de cette imagination. Et cette imagination, elle a été coincée, occultée, négligée. Et il faut bien dire que le rationalisme, je ne parle pas de la rationalité, le rationalisme, le matérialisme, divers sortes de positivisme, ont tout fait pour déloger l'imagination, pour la réduire à moins que rien, au profit de conceptualisation et de formalisation de toutes sortes. Dans le domaine au plan du mental collectif, il est certain que quantité d'êtres le ressentent, d'où un imaginaire qui revient en force, un imaginaire débridé qui se venge en quelque sorte d'avoir été tellement tenu en bride. D'où je pense qu'il y a un imaginaire sauvage et il y a un imaginaire orienté. Orienté au sens pas du tout négatif du terme, au sens positif, nous parlions d'Orient, n'est-ce pas ? Trouver son Orient. Je parlais la dernière fois de ces des vagabonds de l'Occident et des pèlerins de l'Orient. Ce sont ceux qui cherchent l'Orient. Il y a un Orient de l'imaginaire. Le véritable imaginaire au sens créateur du terme, c'est la position théosophique, cela, c'est un imaginaire qui est orienté par une foi, généralement par une foi révélée, par la foi d'une religion. Je ne parle pas ici de religion constituée, mais une religion, au sens révélé du terme. Lorsque l'on n'a pas ce garde-fou, pour ne le définir que d'une façon négative, lorsqu'on n'a pas ce garde-fou qu'est une croyance précise en un Dieu, en un prophète ou en un fils de Dieu, par exemple, eh bien, l'imaginaire risque d'aller dans tous les sens. Et pourtant, voyez-vous, si vous parliez tout à l'heure, vous mentionniez le mot astrologie, je crois que même sous ses aspects les plus contestables, l'astrologie la plus populaire, au mauvais sens du terme, celle des journaux du soir, par exemple, a quelque chose de positif, en sens que l'imaginaire même sauvage, aujourd'hui, me semble-t-il, vaut mieux encore que les formalisations, les conceptualisations de toutes sortes qui sont les enfants du positivisme, ou plutôt des différentes sortes de positivisme qui, elles, conduisent à des conséquences inéluctablement qui sont bien pires que les méfaits de cet imaginaire sauvage, c'est-à-dire le manque d'incarnation. Et je crois que je suis pour une forme d'imaginaire sauvage. Je préfère l'autre, bien sûr. Je préfère celui de Boehme, on citait de Paracelse. Mais tout de même, le fait de se sentir qu'on a une destinée qui peut être en rapport avec quelque chose de cosmique, ça vaut mieux que cette désincarnation foncière qui est en gros, n'est-ce pas, le dénominateur commun de beaucoup d'enseignements philosophiques ou pseudo-philosophiques.
Mais qu'est-ce actuels. Que cet ésotérisme populaire a en commun avec cet ésotérisme, disons, plus scientifique, enfin plus, je l'appelle scientifique.
Oui.
Parce que on le dit pratiqué par certains savants dans certaines universités américaines.
Ah oui, quand je parlais d'astrologie populaire, là, je faisais allusion à ce qu'on pourrait appeler, dans le meilleur des cas, un sentiment de participation cosmique. C'est-à-dire que l'être humain, se ressent lui-même comme coupé complètement du reste du cosmos. L'homme est absolument seul dans l'univers. Ou bien alors, il est en rapport avec l'univers, ses différents étages, ses différentes hiérarchies, par des degrés discrets, subtils, on peut les appeler astrologiques, entre autres choses, et qui se laisse approcher justement par cette intelligence symbolique dont nous parlions. Ça, c'est un sentiment subjectif qui peut déboucher sur une réflexion, ou qui peut être l'enfant lui-même d'une réflexion. Mais alors, en ce qui concerne la science, là, vous posez un gros problème, en effet. Il faut distinguer deux sortes d'imaginaires ici. D'ailleurs, il y aurait même trois sortes d'imaginaires. Il y a l'imaginaire qui est la folle du logis, n'est-ce pas, comme disait Pascal, ce que Paracels appelait la fantasaille. C'est-à-dire, sous le coup d'une névrose ou d'une paresse, on se met à rêver de tout et de n'importe quoi, dans tous les sens. Bon, c'est assez négatif. Mais il y a aussi, alors, l'imaginaire scientifique, que même sans s'occuper du tout d'ésotérisme ou même de philosophie, on ne peut pas mettre en question. Des travaux récents, d'ailleurs, ont très bien parlé de cela. Je pense au livre de Holton sur l'imagination scientifique, n'est-ce pas ? Et bien d'autres aussi. Quel est le rôle de l'imagination dans la découverte scientifique, dans la recherche scientifique ? De plus en plus, on s'occupe de ces questions-là.
Mais c'est quand même autre chose qu'on trouve, par exemple, dans ce qu'on a appelé
la gnose de Princeton. Alors là, en effet, il y a autre chose. Alors, en ce qui compte, là, dans cette troisième catégorie, je dirais, d'imaginaire, encore que les trois, bien sûr, se recoupent par bien des côtés, et dans cette troisième catégorie d'imaginaire ou de place faite à l'imagination, nous avons affaire à ce que Paracels déjà appelait au XVIe siècle l'imaginatio vera, c'est-à-dire l'imagination vraie. Cela signifie, comme je disais tout à l'heure, que si l'homme l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, il a une faculté, une puissance potestas imaginativa, n'est-ce pas, une faculté imaginaire, imaginatrice. Qui lui permet d'accéder à un certain type de connaissances profondément et pas seulement de faire des découvertes scientifiques, encore que ça puisse l'y aider. Alors, ce à quoi nous assistons aujourd'hui, c'est certain, c'est à une intrusion de cette forme d'imaginaire par le biais d'un certain ésotérisme, ou à l'intrusion de l'ésotérisme par cette façon de considérer l'imaginaire, chez les gnostiques de Princeton, dont parle
Raymond
Ruyère, par exemple, mais aussi, comme on peut le voir, dans un certain nombre d'ouvrages qui connaissent actuellement un certain succès, les livres de Charon, par exemple, les livres de Friedhof Capra, The Tao of Physics, et bien d'autres, n'est-ce pas ? C'est-à-dire, il s'agit d'essayer de mieux comprendre l'univers grâce à des schèmes symboliques empruntés à des schémas, des structures symboliques, ou des images empruntées à différentes traditions ou à différentes religions. Ça peut être en effet extrêmement intéressant. On peut parler là d'ésotérisme dans la mesure où la réflexion s'appuie sur un donné, c'est-à-dire sur des éléments symboliques déjà existants, qui font partie de ce qu'on appelle une tradition, qu'elle soit orientale ou qu'elle soit alchimique, occidentale ou astrologique, peu importe. Alors là, il y a certainement on peut dire que l'imagination sert vraiment d'adjuvant à la science. Mais peut-on parler d'ésotérisme au sens précis du terme lorsque l'on parle de la science qui utilise les méthodes expérimentales, même si cette science s'inspire parfois de ce dont nous venons de parler? Je ne pense pas. Je crois que pour que l'on puisse parler d'ésotérisme en rapport avec la science, il faudrait qu'on puisse parler de philosophie de la nature. Or, ce qui manque à presque tous les penseurs, les chercheurs, ce n'est pas un reproche que je fais, c'est une question de définition, auquel je faisais allusion, c'est une philosophie de la nature au sens où on disait au XVIIIe, XIXe siècle, nature-philosophie. C'est-à-dire une science qui considère, qui part non seulement de la nécessité de travailler selon les méthodes des sciences expérimentales, mais qui part également d'une approche gnostique de l'univers et des rapports entre l'homme et l'univers.
Une approche gnostique qui chercherait à saisir quel est le sens.
Quel est le sens?
Parce qu'au fond,
elle
c'est
pose
de ça.
Un sens.
Au fond, c'est ça l'ésotérisme. L'ésotérisme sert à essayer de répondre à la question. L'univers a-t-il un sens?
L'univers a-t-il un sens? C'est cela. Alors la position ici, le mot gnose ici, dans ce contexte que vous évoquez très bien, le mot ésotérisme, dans ce contexte surtout, pas toujours, mais là, oui, est synonyme de gnose. Je ne prends pas le mot gnose au sens que ce mot avait dans les 2-3 premiers siècles de notre ère pour désigner certaines doctrines très particulières. Je prends le mot gnose au sens de connaissance, gnosis, n'est-ce pas? Alors là, il s'agit de poser au départ que l'univers a un sens. Il ne s'agit pas tellement de chercher le sens de l'univers, mais de poser qu'il
en
a un.
Au point de départ, on établit ce postulat.
Il est établi ce postulat. On pose au point de départ qu'il y a une nature naturante, c'est-à-dire une nature invisible qui fait les choses, qui est productive essentiellement. On peut l'appeler divine, on peut l'appeler de bien des manières, et que tout ce que notre science expérimentale nous permet de voir, jusque y compris les plus subtiles incursions dans le domaine de la microphysique, n'est jamais que du ressort, n'est jamais que du domaine de la nature naturée, c'est-à-dire la chaîne du tapis. On ne voit pas la trame qui est derrière, on voit la chaîne. La position gnostique, cette philosophie de la nature, cette naturphilosophie, comme on disait en Allemagne avec Schelling, à la fin du XVIIIe au XIXe siècle, avec Bader, avec Troxler, avec Eschenmayer, il y a une énorme naturphilosophie en Allemagne à cette époque, de type ésotérique, eh bien, cette naturphilosophie, cette philosophie de la nature pose que, indépendamment de la recherche rigoureuse, le savant peut et doit être animé aussi par une intuition fondamentale qui pose la notion de nature naturante qui est derrière l'apparence des choses, que cette nature naturante a un sens et que tout ce qu'il fait a un sens. Et à partir de ce moment-là, il est incité à continuer à chercher en utilisant toutes les ressources de la méthode expérimentale, mais en même temps animé par une intuition.
Mais est-ce que la méthode expérimentale suffit justement à trouver le sens?
Certainement pas. Certainement pas. De toute manière, non. Ce qu'on appelle la philosophie de la nature, au sens ésotérique du terme, pose que les deux doivent être donnés de pair au départ, n'est-ce pas? La science expérimentale ne peut pas par elle-même découvrir le sens, ça n'est pas son objet, ça n'est absolument pas son objet. La gnose, elle, pose qu'il y a du sens et que l'être humain est capable de déchiffrer le sens. L'être humain, le gnostique, sait qu'il y a du sens, avec un grand S. Il s'agit pour lui de le déchiffrer. Et finalement, c'est ça la gnose, n'est-ce pas? Et l'ésotérisme au sens philosophique du terme, c'est essayer de découvrir, de déchiffrer les signatures, les hiéroglyphes du monde. Les hiéroglyphes, les signatures dans les Écritures saintes. Les hiéroglyphes, les signatures dans le monde qui nous entoure. Animal, végétal, minéral. En ce qui concerne la psychologie humaine et les rapports de toutes ces choses-là entre elles, n'est-ce pas? C'est un postulat qui est donné au départ. C'est le grand postulat de l'analogie, de l'analogie universelle, comme dit le texte fondamental texte très court, mais qui sert de Bible, n'est-ce pas, aux alchimistes depuis des siècles et à bien des ésotéristes, qu'on appelle la table d'émeraude. J'ai consacré à l'histoire de ce texte déjà 2 ans de cours aux études à la Sorbonne. Le texte commence en disant ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, afin que s'accomplisse le miracle de l'unité. Le miracle de l'unité, c'est-à-dire le miracle de cette découverte de l'unité pour nous-mêmes et en nous-mêmes, avec ses ramifications et tout ce qui, partant, se développe pour nous, pour notre connaissance en bouquet de sens.
À la page 46 de votre ouvrage, Accès de l'ésotérisme occidental, vous dites que vous souhaitez une remitisation du savoir. En termes simples, je vais vous poser la question. Est-ce que vous êtes vous-même un ésotérique?
Oui, je me considère comme gnostique, c'est-à-dire ésotériste au sens où j'ai essayé en quelques mots de définir, entre guillemets, cette notion ici, ce qui d'ailleurs va tout à fait très bien aller de pair avec l'appartenance à une église, n'est-ce pas? Je citais précédemment Franz von Bader, qui était un grand catholique romain, qui était le plus grand théosophe ésotériste de l'Allemagne de la première moitié du XIXe siècle. Oui, certainement. Et je pense que dans la mesure où l'ésotérisme se définirait comme se définit comme cette recherche, cette quête des significations, c'est un prodigieux outil de connaissance, de recherche plutôt, de quête. On n'est jamais content, satisfait de ce qu'on a trouvé, de ce qu'on a cru comprendre, mais sans cesse on va au-delà en sachant que le pèlerinage, non pas le vagabondage, n'est-ce pas, est indéfini, non pas infini, mais indéfini.
Mais comment se fait ce pèlerinage? Est-ce qu'on a des cartes pour faire ce pèlerinage? Là, c'est à l'ésotériste que je m'adresse.
Eh bien oui, les cartes, je pense que, dans la mesure où l'ésotérisme se définit aussi comme une herméneutique, c'est-à-dire une interprétation d'un discours préalable, les cartes, ce sont ces discours préalables, ce sont les textes révélés, mais ce sont aussi des textes inspirés qui ont été écrits sur les textes révélés. La carte, essentiellement, c'est la lecture, avec les yeux de feu, les yeux de l'esprit, et pas seulement avec les yeux de chair, non seulement des écritures, mais aussi des grands écrits sur les écritures. Prenez par exemple la Kabbale juive, c'est un commentaire, n'est-ce pas, de textes de l'Ancien Testament. Mmh. Eh bien, je considère que la Kabbale, avec son arbre séphirotique, et avec tous ces témoignages visionnaires, n'est-ce pas, qui sont tous plus ou moins une interprétation de livres de l'Ancien Testament, c'est une carte. Je considère que la lecture attentive des textes de Jacob Boehme, ou de Ballon, ou de Louis-Claude de Saint-Martin, c'est une carte. La carte, elle est là dans l'histoire. À condition, bien sûr, pour que cela ne reste pas livresque, parce que pour inspirer que soit un texte, c'est toujours un livre, eh bien, on suive aussi cet enseignement, cette intimation qui est très présente dans l'ésotérisme occidental, généralement, selon laquelle il faut regarder attentivement aussi les choses.
Oui, d'ailleurs, vous avez jusqu'à dire que vous entendez, enfin, vous souhaitez réconcilier l'homme de savoir et l'homme de vie. Vous refusez donc à...
L'homme de savoir et l'homme de désir.
L'homme de désir.
L'homme de désir au sens biblique du terme, oui. L'homme de désir, celui qui a soif de Dieu. Mais là, voyez-vous, je crois qu'il faut distinguer à propos du désir et du savoir, je crois qu'il faut distinguer la gnose et la mystique. Et j'ai l'impression que quantité de personnes qui parlent d'ésotérisme ont tendance à confondre les deux choses. Bien sûr, tout ésotériste ou gnostique est plus ou moins mystique. Tout mystique est un peu teinté de gnose. Mais ce sont comme deux cercles concentriques qui ne se recoupent que par un aspect seulement, qui est plus ou moins important selon les individus. Le mystique aspire, c'est très important pour la définition de l'ésotérisme, et je crois que ça répond aussi à votre question, le mystique c'est quelqu'un qui aspire à une fusion avec son Dieu vivant, disons dans nos religions abrahamiques, n'est-ce pas, une fusion avec Dieu, en gardant bien sûr son individualité propre et dans l'éternité, un dialogue éternel entre Dieu, son créateur, son Dieu vivant et lui-même. Mais une fusion, si possible sans intermédiaire, en se débarrassant assez vite des images, dès que possible, comme l'enseignent tous les grands mystiques, en tant que mystiques. Voyez Saint Jean de la Croix, Sainte Thérèse d'Avila et bien d'autres. Méfions-nous des images, elles ne nous accompagnent qu'un moment. Tandis que le gnostique qui ici définit l'ésotérisme, tel que je l'entends, c'est quelqu'un qui suit une autre voie. L'essentiel pour lui n'est pas la fusion avec Dieu, la fusion mystique. L'essentiel pour lui, c'est la connaissance, au sens gnosis, n'est-ce pas, au sens grec du terme, au sens où j'essayais de le définir tout à l'heure. C'est-à-dire que, alors la connaissance de quoi? Mais la connaissance des rapports. Son intérêt principal ne va pas être la fusion avec Dieu ou en Dieu, encore qu'il puisse y tendre. Ce n'est pas incompatible, mais son intérêt principal, qui le définit en tant que gnostique ou ésotériste dans ce sens, c'est le désir de déchiffrer, de connaître les rapports entre lui et le monde angélique, entre les anges entre eux, le monde angélique et la divinité et l'univers, l'univers concret, physique. Finalement, toute la pensée ésotérique est essentiellement une pratique de pensée, une expérimentation qui concerne les intermédiaires.
Vous écrivez que l'ésotérisme n'est pas simplement un savoir pourtant, n'est-ce pas? Et vous dites qu'il implique une éthique. Quelle est cette éthique? Quelle est cette action?
Mais C'est une éthique qui n'est certainement pas une morale, en tout cas. De toute manière, je crois que la morale s'ajoute à la religion, quelle que soit la religion, exotérique ou ésotérique, comme à l'arbre sa fleur, n'est-ce pas ? Mais l'éthique, ici, c'est un travail sur soi-même et un travail sur le monde. Je crois que la meilleure carte pour parler d'éthique, puisque vous parliez de carte tout à l'heure, c'est... Elle nous a été donnée par les textes d'alchimie spirituelle, qui sont très nombreux en Occident. Il s'agit de repérer en soi et dans le monde, dans nos rapports avec le monde et avec autrui, différents stades. Le stade de la mort, le dépouillement de soi-même, abandonner un certain nombre de choses, d'illusions par exemple, accepter un certain nombre de souffrances, c'est la nigredo, l'œuvre noire. Ensuite, on passe, excusez la formule un peu simpliste, à l'œuvre blanc. Ce qui correspond aussi dans le domaine de la mystique à une étape qui suit la purgation. Et puis ensuite, on accède à la rubédo, symbolisée par la pierre philosophale, c'est-à-dire l'œuvre rouge, ce qui correspond à une connaissance, à une puissance d'action sur soi-même et sur le monde, dans le sens positif du terme. Ces parcours sont balisés, n'est-ce pas ? Ils sont présentés de différentes manières, selon les auteurs, mais toujours de façon voilée, de façon symbolique. Comment voulez-vous parler de ces choses autrement que de symbolisme ? Peut-être d'ailleurs que tout est symbole dans la nature, en nous-mêmes, dans les choses. L'éthique, elle est nécessairement dramatique, c'est-à-dire qu'elle passe aussi, elle passe non seulement par ce travail, cette réalisation passe non seulement par ce travail au sens alchimique du terme, mais ce travail doit être lui-même, pour parler vraiment d'ésotérisme au sens fort et complet du terme, ce travail lui-même doit être sans cesse informé, en quelque sorte, fondé plutôt, sur l'attachement, l'adhérence personnelle, on appelle ça la foi en religion, à un mythe, avec un grand M. Je n'emploie pas du tout le mythe au sens réducteur du terme, mais en tant que histoire, qui nous a été révélé sur ce que nous avons été ou ce qu'a été l'univers à l'origine, sur la genèse divine elle-même. Enfin, c'est le premier volet du triptyque. C'est la cosmogonie, l'anthropogonie, la théogonie. Et puis, le deuxième volet du mythe complet fondateur, c'est la cosmologie ou cosmosophie. Par exemple, qu'est-ce qu'est l'univers aujourd'hui, n'est-ce pas ? Symboliquement, c'est représenté entre autres choses dans l'Ancien Testament par la vision d'Ézéchiel, la vision fulgurante d'Ézéchiel dans le ciel qui voit, n'est-ce pas, les quatre vivants. Et puis alors, l'eschatologie, la fin des temps, discours symbolique imagé sur la fin des temps. Tout grand mythe complet repose sur ces trois volets, n'est-ce pas ? Et je crois que si l'on veut aboutir à quelque chose sur ce qu'on appelle une voie ésotérique, Il y a le passage non seulement par cette ascèse, mais aussi par cette connaissance du mythe auquel on adhère. En ce qui me concerne, c'est le mythe judéo-chrétien, voyez-vous. Eh bien, il s'agit d'un approfondissement permanent qui accompagne notre travail sur nous-mêmes, notre travail, le travail que nous effectuons avec le monde.
Mais ces chemins me semblent des chemins bien étroits et réservés simplement à quelques-uns. Enfin, des... Tout ça, ça me semble un discours finalement très, très subtil, pour ne pas dire très, très abstrait.
Ah voilà, une très bonne question, parce que justement, il semblerait que non. Il semblerait que non, quand je dis il semblerait, c'est-à-dire que je peux me permettre là de ne pas parler seulement pour moi-même, mais si je me réfère par exemple à certaines grandes avenues de la psychologie actuelle au XXe siècle, il semble justement qu'un certain nombre de très grands penseurs en ce domaine, je cite Carl Gustav Jung, on pourrait en citer d'autres aussi, ont montré combien ces parcours, puisque vous parliez de parcours, nous parlions de parcours, d'ascèse au sens précis du terme, et de parcours imaginaire, mais au sens noble et positif du mot imaginaire, imagination créatrice, on a montré combien justement dans... ne serait-ce que, par exemple, cette énorme littérature alchimique occidentale, nous avons des textes qui montrent l'universalité des symboles, des parcours dont nous parlons en ce moment. ce n'est pas du tout... Il semble au fond que ce dont parlent les alchimistes dans leurs ouvrages, à travers toute une imagerie de substances, de métaux, etc., ça correspondre vraiment à la manière dont la psyché humaine, d'un point de vue anthropologique très général, peut se développer, s'épanouir. Vous savez que Jung a vraiment trouvé, s'est mis à écrire les plus importants de ses ouvrages après avoir lu et médité sur des livres d'alchimie occidentale.
Donc pour vous, cette pensée n'est pas simplement, enfin, une pensée qui est digne d'être étudiée parce que c'est un fait historique, mais parce qu'elle a encore une actualité.
Parce qu'elle a encore une actualité. Elle a une actualité non seulement parce qu'elle est traditionnelle, au sens où on emploie le mot tradition en ésotérisme, mais aussi, ça c'est une dimension historique, diachronique, horizontale, mais aussi parce qu'il y a cette verticalité, il y a une dimension anthropologique. Et je dirais même que même si on n'a aucune foi, et il y a des gens qui n'ont aucune foi et qui n'adhèrent, qui ne font partie d'aucune religion, et qui reconnaissent, Jung en était d'ailleurs, qui reconnaissent la valeur de ces parcours, puisque nous parlions de parcours, ne serait-ce que d'un point de vue, ne serait-ce que d'un point de vue psychologique.
Antoine Fèvre, je vous remercie.